ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Ce soir, avec Monsieur le Rabbin Naïm Doron. Merci Monsieur le Rabbin d'être venu ici à Radio Présence, dans notre radio, j'allais dire diocésaine, non régionale, pour présenter les fêtes de Pessah, les fêtes de Pâques. Vous êtes rabbin du consistoire de, on va dire, le consistoire c'est le diocèse de Toulouse et sa région, plus précisément rattaché à la synagogue Hechal, c'est-à-dire rue Palaprade, pour ceux qui connaissent un petit peu Toulouse. Et nous nous étions rencontrés, Monsieur le Rabbin, lors de la marche Osons la rencontre et à plusieurs autres occasions. Et vous venez aussi parler avec Dominicain frère Édouard d'Ivry.
Bonjour et tout d'abord merci à vous pour cette invitation. Oui, tout à fait. La synagogue, juste pour vous reprendre, il me semble, oui, parce que vous avez dit rue Palapra, c'est place Riquet. Rue Palapra, il y a une synagogue.
Pardon.
C'est d'ailleurs la synagogue la plus ancienne de Toulouse, qui a plus de 170 ans maintenant, et dans laquelle il y a une plaque magnifique et merveilleuse en l'honneur du cardinal Saliège, qui a dénoncé donc les déportations, qui s'y est opposé publiquement et qui a protégé de nombreux juifs. Et puis, il y a 25 ans, la synagogue était trop petite pour accueillir l'ensemble des fidèles de la communauté juive de Toulouse. Et donc, à la place Riquet, il y a Hechal David, donc la grande synagogue aujourd'hui de Toulouse, qui a ouvert.
Grimfogel aussi, le soutien de ceux qui ont participé. Et plus, il faut dire, les restitutions d'un passé que nous n'avons pas oublié, mais voilà. Alors, vous avez voyagé dans le monde, vous venez de la Guadeloupe depuis quelque temps, et puis vous allez nous parler de votre famille, comme je demande à chacun. Votre foi, d'où vient-elle ?
Alors moi, je suis originaire de la région parisienne, mais une fois que j'ai eu mon bac en poche, donc je suis parti faire mes études de rabbin et du rabbinat en Israël. C'était une volonté de pouvoir approfondir les textes, de pouvoir me plonger dans cet univers, dans cette foi et dans cette profondeur des textes. Il y a un séminaire israélite qui donne donc les titres de rabbin à Paris, c'est le seul, et j'ai voulu le faire en Israël. Et donc, une fois que j'ai terminé, en effet, ma première expérience rabbinique professionnelle a été en Guadeloupe, donc une belle île. Et puis, on a pu associer notamment le fait de pouvoir profiter de la nature merveilleuse que Dieu a créée. Vous savez que prier dans un lieu de culte, c'est ce qui a certainement de plus important. Mais il m'est arrivé de voir prier en plein milieu de la nature, dans des forêts magnifiques, merveilleuses, ou devant la mer en Guadeloupe. Et c'est vrai que si on ressent Dieu au sein de nos lieux de culte, je peux vous persuader que lorsque l'on prie dans une nature aussi belle, on sent Dieu d'autant plus fort.
Nos auditeurs catholiques se rappelleront sans doute un verset de leur texte où il est dit « Nous prions au temple, mais nous prions aussi n'importe où et dans notre chambre ». D'ailleurs, vous avez apporté deux psaumes et je crois qu'on peut déjà commencer notre entretien par le premier, le psaume 90. En ces temps d'épidémie, parce que nous sommes devant une difficulté, nous allons parler de Pâques, le grand passage, Pessah, le passage de la mer morte, mais nous avons aussi d'autres épreuves à traverser. Alors, le psaume 91 que vous avez choisi, il est magnifique. Vous pouvez nous le dire dans votre langue, dans la langue de nos ancêtres. Vous êtes notre frère aîné.
Alors oui, tout à fait, c'est gentil et on en parlera puisque ça fait partie aussi donc de cette lettre de Nostra Aetate. Mais ce psaume 91, je l'ai choisi d'abord parce qu'il est très fort. C'est un Tehillim qui se relève de Moïse, le plus grand de nos prophètes, celui qui nous a transmis les tables de la loi, celui qui a fait sortir le peuple hébreu d'Égypte. Et le psaume 90 se présente catégoriquement comme la prière de Moïse. C'est un psaume d'une très grande puissance, ce psaume donne l'assurance de ne pas être attaqué par ses ennemis, d'être sauvé des pandémies, des épidémies. Et certains lisent ce psaume avant de commencer la journée, en se levant le matin, tous les matins, lisent ce psaume, ce qui assure d'être protégé tout au long de la journée. C'est un psaume que l'on lit contre les mauvais esprits, les forces du mal, et pour faire fuir tous les potentiels dangers. Pour lire les premiers versets seulement, Yoshev Beseter Elyon, Betzel Shaddai Itlonan, Omar Ladonai Marsi Umtsudati, Elohai Eftahbo, Kiwiatilicha Mipah Yakush, Midever Avot. Be'evrato yaser lach v'tachad kenafav terse tina v'sochera amito.
Et au verset 13, nous pouvons prier. Reviens, ô Éternel, jusqu'à quand? Reprends en pitié tes serviteurs. Rassasie-nous dès le matin de ta grâce et nous entonnerons des chants. Et vous nous avez apporté une mélodie qui va interrompre notre discussion. Mais je voudrais quand même dire que nous prions sans doute les psaumes avec de multiples interprétations différentes. Et alors, il y a eu cette fâcheuse idée quand nous disons 90-91, nous avons coupé, nous, c'est-à-dire la TOB, la traduction œcuménique de la Bible, nous avons coupé un des psaumes qui était trop long. Alors, on ne s'y retrouve pas toujours, mais bon, ça c'est pour ceux
d'accord,
qui font...
D'accord, on est décalé. Mais vous avez relevé la traduction du verset 13 qui est merveilleux. Moi, c'est les deux premiers versets qui me bouleversent, parce que la traduction dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut » repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et lorsque l'on prend conscience au quotidien, dans la vie de tous les jours, à chaque instant, que nous demeurons sous les ailes de la Providence et que nous remettons notre vie familiale, professionnelle, matérielle, médicale ou autre, entre les mains de Dieu qui est notre refuge et qui est notre forteresse, alors on ne craint absolument plus aucun danger qui pourrait nous arriver.
Ma foi, j'y crois. Depuis le début, depuis votre enfance, depuis votre adolescence, pas de crise de l'interprétation de qu'est-ce que je vais faire de ma vie?
Non, alors oui, il y a pu avoir une question, mais au fond, la base et la source étaient la même. Avant d'être rabbin, pour être honnête, je n'ai pas voulu être rabbin dès le début. Quand j'étais petit, je voulais être psychologue. Je voulais faire mes études de psychologue parce que depuis que je suis petit, j'ai cette conviction, j'ai cette foi qui m'anime de vouloir faire la paix, de vouloir aider le plus faible. Je me revois encore alors que tous mes camarades et mes amis jouent dans la cour de récréation au ballon ou autre, lorsque je voyais un de mes amis ou même des classes inférieures qui était malheureux, qui était dans son coin, avec qui personne ne jouait, et ben j'allais le voir et je lui parlais, je lui redonnais le sourire. J'ai pu des fois, entre deux camarades qui se disputaient, aller voir l'un en lui disant « c'est pas bien, il faut faire la paix ». Et donc cette foi m'anime, c'est l'amour du prochain, c'est essayer de partager, de propager la paix autour de nous. Et donc au début j'ai voulu être psychologue parce que je me suis dit que de cette manière, c'était une façon de pouvoir aider les gens, de pouvoir les accompagner dans leurs difficultés, dans leurs problèmes. Que ce soit dans l'éducation des enfants, que ce soit dans le conflit des enfants envers leurs parents, dans les conflits de couple. Donc c'était ma volonté profonde. Les choses de la vie ont fait que finalement je me suis redirigé vers le rabbinat pour devenir rabbin et j'en suis très heureux aujourd'hui parce que le rabbin, vous aviez l'intention de me poser la question quelles étaient un peu mes responsabilités et mes obligations en tant que rabbin de Toulouse. Ben, un rabbin avant tout, c'est d'accompagner les gens, d'accompagner les familles, non seulement dans leur vie spirituel, mais matériel aussi. On peut venir me voir pour une conversion, pour un divorce, pour un mariage, pour une naissance. Je suis Moël en hébreu, ce qui se dit circonciseur. Donc, je pratique aussi la circoncision, comme il est de tradition chez nous, des enfants à 8 jours. Et donc, aussi dans les maladies, j'ai eu il n'y a pas longtemps un élève qui est venu me voir dans mon bureau pour me dire qui lui avait découvert donc une maladie qui était qui est assez dure. Et donc comment accompagner les gens j'en fais partie puisque je suis aumônier aussi dans les hôpitaux, je vais accompagner les gens qui sont malades ou autre. Donc il y a vraiment un accompagnement qui est fait. Ce sont mes responsabilités en tant que rabbin. Et donc j'ai retrouvé un peu ce que je voulais faire dans la psychologie. C'était tout simplement aider les gens à pouvoir se sentir bien avec eux-mêmes, bien avec la nature, bien avec Dieu et tout simplement bien avec leur conjoint ou leur prochain.
Et vous accompagnez aussi la préparation au bat mitzvah, à la bar mitzvah, pardon, garçons et filles.
Bar mitzvah et bat mitzvah, garçons et filles, tout à fait. Je les accompagne à cette communion, à cette majorité religieuse qui leur fait prendre absolument toutes leurs responsabilités vis-à-vis de la communauté et vis-à-vis de leurs responsabilités religieuses.
C'est là ce qu'avait Jésus quand il était allé au temple. Si nous revenons sur un certain nombre de questions, le rabbin Yeshoua, mais ça sera peut-être l'occasion d'une autre discussion. Vous avez donné des cours aussi à l'école, aux Aratora, des cours d'hébreu, de théologie.
Des cours de théologie, les cours d'hébreu, des cours d'histoire juive. J'ai été professeur à Ozaratora de 2008 à 2012 et c'est après malheureusement les attentats où mon épouse et moi-même avons été très, très ébranlés et traumatisés que nous avons fait le choix de partir une première fois de Toulouse. C'est là où finalement on a eu la première expérience rabbinique. Donc en Guadeloupe, avant ça j'étais professeur à l'école Ozaratora et une fois que le rabbin de Toulouse a quitté ses fonctions pour devenir rabbin de Strasbourg, le rabbin de Strasbourg étant parti à la retraite, Toulouse s'est rappelé de moi et a voulu me faire revenir. Les premiers pas étaient très difficiles parce qu'on n'avait pas remis les pieds 5 ans après les attentats, il y avait beaucoup d'émotions, il y avait beaucoup de craintes et d'appréhension et les choses se sont faites petit à petit, mais il est clair que la douleur ne s'est jamais refermé.
Alors comment peut-on aussi prier? Certains ont dit, des philosophes, comment peut-on croire à Dieu après Auschwitz? Comment peut-on croire après de semblables drames? Le psaume 91 dit bien « Qui s'abrite à l'ombre du Tout-Puissant, Dieu est mon refuge, ma citadelle, je place en toi ma confiance. » C'est pas intellectuel ça, c'est au plus profond de son cœur.
Oui, tout à fait. Le problème aujourd'hui, je pense que dans cette génération, c'est que l'on veut enfermer la religion et la rendre intellectuelle. Or, la religion vient du cœur. Et le cœur et l'intellectuel, on sait souvent que l'esprit et le cœur sont souvent en conflit. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. L'esprit va nous dire qu'il n'est pas bon de fumer. Parce que fumer tue, et puis le cœur, c'est la source de tous les désirs et tentations, va vouloir continuer à fumer. Donc là, à ce moment-là, l'intellect doit prendre le dessus. Mais des fois, comme c'est écrit dans la Bible, lorsque l'on fait un don, il faut faire un don avec le cœur, lorsque l'on croit en Dieu, lorsqu'il y a l'amour du prochain, c'est aussi source de toutes les émotions. L'intellect va essayer de nous limiter en nous disant « mais non, il ne faut pas lui faire confiance, mais non, on va avoir mal ». Et là, il faut que le cœur prenne le dessus. Donc il faut que l'on sache exactement quand est-ce et dans quel domaine l'intellect doit prendre le dessus sur les pulsions et tentations du cœur, et quand est-ce que tout ce qui est bon dans le cœur, source de toutes les bonnes émotions, doivent prendre le dessus sur l'intellectualité et sur l'esprit et sur le cerveau humain qui reste trop étroit par rapport à tout ce que la bonté de cœur peut nous apporter. Et la foi doit sortir du cœur et doit pas sortir de l'intellect.
Alors, nous sommes en plein devant un débat concernant les mots et je ne voudrais pas éclipser cette question, mais nous allons écouter de la musique pour montrer qu'il y a aussi le sentiment. Quand vous parlez du cœur, je voudrais évoquer juste la mémoire de Monique Liskoen qui est venue ici 2 fois et qui a écrit un livre « Les Juifs ont-ils du cœur ?» pour justement montrer cette notion de cœur comme elle évoque la notion de circoncision du cœur. Et circoncision des oreilles, toute cette réflexion qu'il nous faudra probablement reprendre une autre fois. Mais merci de la musique que vous nous avez apportée.
והיא שעמדה לאבותינו ולנו שלא אחד לבד עמד עלינו לחלותינו עמד עלינו לחלותינו והיא שעמד על אבותינו והיא שעמד על אבותינו ולנו שלא אחד לבד עומד עלינו לחלותינו עומד עלינו לחלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מצילנו מידם והקדוש ברוך הוא יצילנו יצילנו מידם שעמד על אבותינו והיא שעמד על אבותינו ולנו שלא אחד לבד עומד עלינו לחלותינו עומד עלינו לחלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מצילנו מידם והקדוש ברוך הוא יצילנו יצילנו מידם
Ma foi, j'y crois avec Benoît Petit.
Et ce soir, avec M. le rabbin Naïm Doron, du consistoire de Toulouse et de sa région, et de la synagogue de la rue Riquet. Vous nous avez apporté cette musique, M. le rabbin, qui évoque...
Cette musique évoque toutes sortes de mauvaises personnes qui ne veulent pas vivre dans l'amour, dans le respect de l'autre, dans la fraternité, et qui font tout pour avoir une pensée unique. Veïch et Hamda, chaque génération, il y a un tyran qui s'élève et qui essaye de rallier tout le monde à sa cause par la violence, par la force et par l'atrocité. Et la chanson termine, « Ve'akadosh Baruch Hu, Matzilenu Miyadam » et finalement Dieu vient et nous sauve de ses mains. Parce que Dieu veut avant tout que tous ses enfants, quelle que soit leur façon de penser, de vivre, leur croyance ou pas, vivent dans la paix, dans l'amour, dans l'harmonie et dans la fraternité.
Oui, mais ça nous rappelle aussi, nous sommes dans les semaines de Pâques, que Moïse a eu un adversaire particulier et il a pu faire sortir le peuple hébreu de l'esclavage de l'Égypte. Alors, c'est un mythe ? C'est tout à fait actuel ?
On dit que la Torah est une Torah trahim, est une Torah de vie et qu'elle n'est pas limitée dans le temps, que la parole de Dieu est intemporelle. De la même manière que Dieu est éternel, ce qu'il a écrit aussi est éternel. Et qu'à travers chaque génération, il est possible de retirer des enseignements de Torah. D'ailleurs, le mot Torah, qui est traduit par Bible ou par livre, mais hébraïquement, et étymologiquement et même littéralement, le mot Torah vient du mot moré. Moré, c'est un enseignant. Mora au féminin, c'est une enseignante. Et la racine, c'est hora'a. Hora'a, c'est un enseignement. La Torah est une Torah avant tout qui se vit et qui est là pour nous enseigner un comportement, un mode de vie, une façon de réfléchir et d'aborder les situations qui nous sont proposées dans la vie, les épreuves que nous rencontrons. Et elle est d'actualité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à travers la sortie d'Égypte, à travers l'histoire de Moïse, à travers le tyran Pharaon, ou à travers toutes sortes de textes que l'on peut lire dans la Bible, et d'ailleurs, c'est ce que nous faisons, rabbins, lorsque nous nous adressons à nos fidèles. fidèles. Nous tirons les enseignements de cette histoire. Nous ne racontons pas seulement l'histoire, mais nous tirons les enseignements pour savoir comment aujourd'hui ils peuvent nous aider, ils peuvent se retransmettre, se retranscrire dans notre vie au quotidien. Donc c'est vraiment un enseignement qui nous permet, nous, de vivre notre vie, même 3000 ans ou 4000 ans après que ce soit passé.
Avec de multiples interprétations, c'est ça la richesse aussi, de la tradition de la culture juive. Sans cesse, le débat et d'ailleurs la confrontation de l'Exode et du Deutéronome. Je ne veux pas aborder ici l'historien Thomas Römer, professeur au Collège de France, qui compare non seulement les textes révélés des Hébreux, mais aussi qui compare avec des textes de l'Égypte, avec des textes de Perse et de Babylone. Alors, ça nous emmène bien trop loin, avec les architectes aussi qui essayent de trouver des traces.
Vous savez, chez nous, on dit deux rabbins, cinq avis. Donc déjà, chez nous, c'est très riche. Si en plus, il y a les avis des autres théologiens ou des autres historiens qui se rajoutent. Je pense que chacun doit vivre avec ses questions, avec ses réponses, avec ses convictions. Chacun doit penser ce qu'il en est, est-ce que c'est un mythe ou pas, quelles sont les interprétations. Chez nous, même les Juifs ont dit une expression qui s'appelle « Shivim Panim la Torah », 70 facettes à la Torah. On peut l'aborder de toutes sortes de manières. C'est pour ça que chez nous, il y a plusieurs courants. Il y a les courants ultra-orthodoxes, chassidisme, il y a les juifs d'Europe de l'Est, il y a des juifs d'Afrique du Nord. Ce n'est pas les mêmes traditions ou les mêmes pratiques. Il y a même les juifs libéraux aussi, qui ont aussi une autre façon d'aborder la Torah. L'essentiel, encore une fois, ce n'est pas d'essayer de convaincre l'autre, ce n'est pas ce que Dieu veut, sinon il n'y aurait absolument qu'une religion, qu'un mode de vie et qu'une façon de penser. Si Dieu a créé la diversité, c'est parce que la diversité amène la richesse. Il faut tout simplement accepter la façon dont l'autre croit ou pas, et le respecter dans ses choix et dans ses convictions. C'est ce que nous faisons au sein de notre judaïsme parmi tous les courants, et c'est ce que nous essayons aussi d'inculquer à Toulouse ou ailleurs, au sein de toutes les religions, de tous les courants, et tout simplement de la société.
Alors, les sept plaies d'Égypte, bon, vous nous avez apporté une image qui montre le passage de la mer Rouge. On pourra l'interpréter de multiples manières. Je préfère que vous nous disiez comment vous interprétez le meurtre des premiers-nés. Dieu est violent ? Est-ce que c'est un euphémisme ou est-ce que c'est une manière de traduire jusqu'où va le dialogue très conflictuel entre le pharaon et Moïse ?
Vous savez, il y a un sage qui s'appelait Maïmonide, qui est talmudiste, qui a été jurisconsulte et décisionnaire, qui a été aussi théologien à l'époque de Averroès, philosophe, médecin, métaphysicien, qui disait que dans les 13 fondements de foi qu'un être humain, auquel un être humain doit se rattacher, il y a le fait que Dieu punit les méchants pour leurs mauvaises actions qui ont fait souffrir d'autres personnes et récompense les hommes pieux et les hommes bons et les hommes justes. Donc il n'y a pas un Dieu qui est violent, il y a un Dieu qui est juste et qui doit donner les récompenses comme les punitions. On va pas dire que des parents sont violents si jamais ils décident de punir un enfant pour un méfait, parce que ça se fait dans un esprit éducatif. Et il faut savoir que nos exégèses nous enseignent, nous, que Dieu, ce qu'il a attribué à travers les 10 plaies aux Égyptiens, c'était uniquement mesure pour mesure. Ça veut dire qu'à travers les 10 plaies, la souffrance des Égyptiens, ça a été la souffrance qu'ils ont fait subir au peuple hébreu. Et de cette manière, ils ont pu comprendre ce qu'ils ont subi afin qu'ils ne recommencent plus. Et donc, les exégèses expliquent à travers les 10 plaies quelles étaient les réactions, les souffrances et à travers quelles actions eux-mêmes ont fait souffrir le peuple hébreu. On peut tout simplement prendre exemple des plaies des bêtes sauvages. Pourquoi les bêtes sauvages ? Parce qu'ils disaient au Bnei Israël, allez nous attraper des ours et des lions, et de ce fait, ils se faisaient dévorer, ou en faisaient des bêtes de chasse pour attraper les autres animaux. Et donc, eux-mêmes, les Égyptiens, ont été frappés par les bêtes sauvages. Et pour répondre à votre question, la plaie des premiers-nés, c'est certainement la plus simple, parce qu'ils avaient tué les premiers-nés des Bnei Israël, ils avaient tué les enfants du peuple hébreu. Je vous rappelle que nos sages nous disent que Pharaon se baignait dans le sang de ses enfants, et c'est pour cela que Dieu a voulu, mesure pour mesure, faire comprendre aux Égyptiens que ce qu'ils ont fait au peuple hébreu n'était pas bon.
Aujourd'hui à Toulouse, les fêtes de Pâques, dans votre communauté, C'est le mot de la fin parce que nous allons bientôt devoir conclure.
Alors chez nous, la fête de Pâques est la fête de la liberté. Je sais que c'est très différent de la fête de Pâques, de la fête chrétienne, qui est la fête de la résurrection. C'est dommage que nous n'ayons pas de temps pour en parler un peu plus. On aurait pu parler des points qui convergent entre les deux fêtes et des points, au contraire, qui ne sont pas les mêmes. S'il fallait retenir en un titre la différence entre la fête Pâques chrétienne et la fête Pâques juive, c'est que chrétienne, c'est la fête de la résurrection, alors que la fête de la Pâques juive, c'est la fête de la liberté. C'est ce qui nous permet d'être un peuple, une nation, libre de nos actions, libre de nos pensées.
Alors, peut-être que c'est par le psaume 91 que nous pouvons conclure en disant que tous les peuples rendent grâce au Seigneur. Rendez grâce à l'Éternel, chantons en l'honneur de son nom, lui qui nous donne la force d'aller plus loin et de ne pas être pris par cette maladie qui nous menace.
Nous menace l'épidémie, la pandémie, de garder encore une fois beaucoup de foi, faire ce qu'il faut au niveau de nos actions quotidiennes pour préserver tout à chacun. Ça fait partie aussi du respect d'autrui. Les jeunes, même s'ils ne sont pas concernés, doivent prendre sur eux pour préserver leurs anciens. Et de cette manière, je suis persuadé que si tout le monde fait les efforts nécessaires, alors nous pourrons tous ensemble passer cette crise sanitaire.
Et vivre en frère, vous qui êtes nos aînés dans la foi et qui nous avez transmis toute cette sagesse de la Bible.
Vivre en frère et en fraternité. Je vous parlais tout à l'heure de ce verset qui nous dit « Hinematov umanaim » qu'il est bon et agréable, « Shevetachim gamyachad » de voir des frères qui sont assis ensemble. Un père ne supporte pas voir deux de ses enfants qui sont en dispute et qui ne se parlent pas. Dieu ne supporte pas de voir non plus ses enfants se disputer, qu'il est bon et agréable pour Dieu lorsqu'il s'aperçoit que nous sommes tous assis dans l'amour, la paix et la fraternité.
Merci, monsieur le rabbin. Shalom.
Shalom, merci à vous et au revoir.